Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 4 mars 1986. Complexe, comme toujours quand on est en philosophie politique. C'est pas simple du tout. Les solutions
famille est fondement de l'aspect politique. Ce que nous avons dit, hein, je ne reviens pas sur ce problème. Je laisse Platon au sous-sol ou au ciel, ça dépend. Vous pouvez le laisser dans le ciel, vous pouvez le laisser au sous-sol, parce qu'on peut être platonicien de droite ou platonicien de gauche, comme on est hegelien de droite ou hegelien de gauche. C'est un peu la même chose. Aspects. Et le bien commun de la France au début du siècle façon absolue. Il faut un renouveau. Et on ne peut pas être révolutionnaire de façon absolue. Parce qu'il faut garder. Donc, c'est toujours un peu une mixture. Hein. Le mixte politique, c'est pas commode. Et c'est pour ça qu'au plan philosophique, c'est toujours extrêmement délicat. Je crois qu'au plan philosophique, il faut éviter tout fanatisme. Tout fanatisme de droite ou de gauche est nécessairement quelque chose qui ne peut pas être pour le bien commun. Mais voyez, éviter tout fanatisme, c'est quelquefois tomber dans aurea mediocritas. La médiocrité dorée, pas seulement dorée, mais d'or. Et c'est pas ça le point de vue politique. Le point de vue politique, c'est au contraire le sommet dans l'harmonie. C'est déjà vrai au point de vue vertu. C'est encore beaucoup plus vrai au niveau proprement politique. Je dis ça tout de suite parce que c'est important pour nous d'y réfléchir. Alors, la première œuvre politique, après avoir regardé la famille, après avoir vu l'autonomie de la famille a une autonomie grâce à l'amour d'amitié. L'amour d'amitié finalise l'homme. C'est la première finalité. Et donc, si l'amour d'amitié finalise l'homme, la première autonomie politique, c'est la famille. Parce que l'homme atteint une finalité. Si l'homme atteint une finalité, il est au-delà du conditionnement politique, par la finalité. Dès qu'il atteint une finalité, il est au-delà. C'est pour ça que la famille a son autonomie par l'amour d'amitié. Et cet amour d'amitié implique la procréation, ce que nous avions vu. Puisque c'est une amitié qui implique le don des corps et qui, par le fait même, est capable de fécondité, est capable de faire survivre l'espèce. Par le point de vue donc de la fécondité, la procréation, la famille a sa structure propre et sa finalité propre. Un amour d'amitié responsable de la survie de l'espèce. C'est une responsabilité qui dépasse le point de vue politique, qui est au haut niveau de la nature humaine. Puisque par cet amour d'amitié, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, sont responsables de la procréation. Et par la procréation, ils sont responsables de la survie de l'espèce. Je crois qu'il faut maintenir à tout prix ce point de vue-là. Parce que c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que cette communauté naturelle. Mais il est évident que les partis politiques français d'aujourd'hui ne réaffirment pas cela avec autant de force. Alors que je crois que c'est élémentaire. Ça montre tout de suite où l'on en est au point de vue politique. Je crois que c'est élémentaire. Je crois qu'on ne peut pas avoir une politique saine et vraie si on ne reconnaît pas que la famille est une cellule fondamentale à cause de l'amour d'amitié, à cause de la procréation. La procréation ne regarde pas le point de vue politique. Que le point de vue politique est un contrôle pour permettre à la procréation d'être ce qu'elle doit être, très bien. Et c'est un contrôle pour aider l'autonomie de la famille dans la procréation. C'est pas pour autre chose. Ce contrôle ne doit pas être déterminant. L'État n'a pas passer avant la finalité de famille, d'un point de vue économique. Mais comme en Chine, par exemple, je prends cet exemple-là, vous avez le droit à un seul enfant. Le second, il faut le cacher, et l'État ne le reconnaît pas. On ne vous tue pas parce que vous avez un second enfant, mais on l'ignore. Alors voyez là, la tyrannie, c'est une tyrannie au niveau de la famille. Et ceci en fonction qu'il y a trop d'enfants dans le pays. Et c'est l'État qui juge cela. Il n'a pas le droit. L'État peut peut-être recommander de ne pas avoir trop d'enfants. Ça regarde le point de vue de l'État. Et dans d'autres pays, c'est l'inverse. Il n'y a plus d'enfants. Le déséquilibre devant lequel on se trouve aujourd'hui, c'est là où on le voit mieux. On parle tout le temps du déséquilibre économique. Mais le déséquilibre économique n'est rien à côté de ce déséquilibre-là. Parce que là, on touche fondamentalement quelque chose de naturel. On détraque l'homme. Et c'est vrai qu'on est en train de détraquer complètement l'homme. Ça, c'est visible avec les procédés qu'on peut avoir aujourd'hui de technique. Et donc, et l'homme dans une situation qui n'est plus humaine. Et on met la famille dans une situation qui n'est plus l'autonomie qu'elle doit avoir. Je crois qu'il faut voir ça avec beaucoup de netteté au plan philosophique. Après, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela, pas grand-chose. Pas grand-chose. Prier. La dernière ressource, même au plan politique, même au plan philosophique. Quand on est devant des situations qui nous dépassent complètement, on n'a plus qu'un seul recours à la cause première. C'est vrai, je crois qu'on est devant ces situations-là. Dès que j'essaie de regarder le point de vue de la philosophie de la famille, je vois ces deux extrêmes. Un Occident nanti dont le péril est de ne plus avoir d'enfants. Je me souviens quand c'était tout à fait au début, on avait parlé beaucoup en Suisse parce que c'était un savant biologiste de Bâle qui avait fait ses premières études, tout simplement des constatations qu'Aristote avait déjà fait et que Platon avait déjà fait. On les avait fait du côté scientifique, alors évidemment ça avait un poids nouveau. Vous savez bien, une des questions de Platon, comment se fait-il que le petit animal, en venant au monde, a tout de suite une grande autonomie? La plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Pas les petits poussins. C'est pour ça que les petits poussins sont très proches de nous. Et que Jésus prend l'exemple de la mère poule. On le comprend très bien. Parce que les petits poussins ont besoin de leur mère. Évidemment, aujourd'hui, on remplace ça par une couveuse électrique. Je sais. Et on voudrait faire la même chose hein, pour l'homme. Mais les petits poussins ont besoin de la mère poule. Et la mère poule est farouche. Elle est méchante. C'est un petit exemple merveilleux de voir l'irascible d'une bonne poule. Hein, c'est bon, qui devient méchante lorsque vous voulez lui prendre ses petits poussins. Quand vous allez un petit peu plus loin et que vous regardez l'aigle, là, les exemples sont moins concrets là, mais c'est intéressant aussi d'entendre parler ceux qui connaissent les mœurs de l'aigle et que vous voulez prendre. Méchant. Remarquez qu'il est toujours un peu méchant. Mais il devient farouche. Farouche à ce moment-là. C'est curieux, ça. Ce sont des exemples de la nature. Qu'il y a un lien entre l'engendrant et l'engendré. Il y a un droit naturel, fondamental, entre les deux. Que l'engendrant, tant que l'engendré n'est pas capable d'avoir son autonomie, considère que personne ne peut l'approcher. Et l'irascible de la poule et de l'aigle sont là. Je prends ces deux exemples parce qu'ils sont particulièrement tangibles, pour moi des quantités d'autres. Le lion, c'est aussi comme ça. La lionne. Parce que le lion, il est tellement royal qu'il est tellement magnanime que ses enfants, c'est pas lui qui tue le gibier. Hein. Il est tellement magnanime. Le lion, il est au-dessus, hein, au-dessus du chasseur. Il est roi. Il est platonicien. Alors, il règne avec un regard d'horizon. C'est vrai, c'est très très beau de voir ça. C'est très beau, c'est très intéressant. Il y a un lien. Alors ses études, ce Portman à Bâle, qui a tout simplement fait ses études très simples, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait du reste, mais là, j'étais tout proche, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, de voir la dépendance du petit homme, ce que Platon avait déjà saisi. Pourquoi le petit homme est-il si dépendant? Alors que le petit animal est beaucoup plus vite autonome. Autrement dit, comment l'homme a besoin de l'éducation, et une éducation maternelle au point de départ, et paternelle ensuite. Pourquoi ça? Je comprends très bien, c'est une question philosophique tout à fait élémentaire. prolonge le point de vue de la gestation et qui doit se continuer. Et que la première éducation est liée à la nourriture. C'est aussi capital, ça. Alors évidemment, là-dessus, on sait très bien qu'il y a des oppositions farouches. Ce freudien qui veut être plus freudien que Freud et qui dit que ce lien de l'enfant et de la mère doit être à tout prix brisé. Platonicien. Platon n'avait pas été jusque-là. Ici, je suis. Le raisonnement Platon, je pourrais légitimer ce point de vue-là. Mais qui est contre nature? Qui est contraire à la nature? C'est contre nature d'isoler l'enfant de sa mère. Si on doit le faire pour des raisons très très impératives, on doit savoir que c'est contre nature. C'est vrai, c'est contre nature. L'enfant est lié à sa mère. Lié pour la première éducation. Ça, c'est impératif. Avec l'aliment. C'est quand même très significatif, cela, de voir que mettre au monde un enfant implique la continuité de la première éducation. Et que la nature elle-même a inscrit cela. Et c'est ce qui explique aussi comment l'enfant naît dans la fragilité, qu'il a besoin d'un milieu. Pourquoi tout cela? Le philosophe doit se poser la question. Sans doute, je crois que c'est la première réponse qu'on doit donner. C'est pour montrer la grandeur de la procréation. L'importance de la procréation. Et dans une vision de sagesse, c'est pour faire comprendre les parents doivent coopérer avec Dieu. Et le philosophe peut le dire. Si Dieu crée l'âme spirituelle, Dieu remet l'âme spirituelle dans un état de fragilité, de petitesse, pour laisser aux parents le soin d'éduquer le tout petit enfant. Et ça correspond à cette chose très importante que Dieu a laissé à l'homme l'initiative de la procréation. Et parce que Dieu laisse à l'homme l'initiative de la procréation, Dieu veut que cette responsabilité se continue dans la première éducation. Je crois que ça, c'est la raison de sagesse au plan philosophique qui va très loin parce que c'est de l'ordre sacré. Comme la procréation touche quelque chose de sacré, au-delà du point de vue moral. Le point de vue moral ne suffit pas pour montrer la grandeur de la procréation. Je dis sacré ce qui dépend directement de Dieu. Ce qui est directement en relation avec Dieu, c'est du sacré. C'est plus que du religieux, c'est plus que du moral. L'attitude religieuse a une attitude sacrée. Parce que c'est directement relié à Dieu. Eh bien, c'est pour nous faire comprendre que la procréation a un lien avec Dieu, le Créateur, unique. Toutes les traditions religieuses montrent. Il faut entrer vraiment dans une laïcisation de la pensée qui va très loin. Pour dire, non, l'enfant doit être arraché à ses parents. Je sais que ça a été très vite, puisque Platon l'a dit. Et que nous retrouvons ça aujourd'hui dans certaines idéologies. Les idéologies socialistes, comprenez bien, l'idéologie socialiste, qu'il s'agisse du marxisme ou d'autres idéologies idéologies socialistes, vont jusque-là. Il faut arracher l'enfant à ses parents. Et ceci se soutient devant certaines idéologies freudiennes. Il faut bien saisir ça, parce que je crois que c'est quand même très important pour nous. C'est très important d'essayer de comprendre l'aspect fondamental au plan philosophique de la procréation. celui qui est engendré. Et pour Aristote, c'est comme une espèce de principe philosophique, de philosophie du vivant, qui va très loin. Celui qui est source d'un nouvel être, est gardien du premier acte de ce nouvel être. personnaliste, c'est bien évident, un âme est personnel. Mais s'il assume la nature, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma nature humaine. Par le fait même, je dois respecter ce qu'est la procréation. Je dois respecter la fragilité d'un tout petit enfant. Je respecte cette fragilité au niveau biologique. Et je ne la respecte pas au niveau moral. C'est affolant. Alors que je dois la respecter encore plus au point de vue moral. Je n'ai pas le droit d'éduquer un tout petit enfant comme je dresse un chat. Je prends l'exemple parce que Mono avait dit ça dans les rencontres internationales, qu'il fallait dresser un petit enfant comme on dresse un chat. Et qu'il fallait respecter simplement les lois biologiques. Je ne peux pas, parce que ma nature humaine est une nature qui implique une personne. Et donc je dois éduquer l'enfant au point de vue de ce que représente son régime normal, biologique, et son régime au point de vue éthique, au point de vue moral. Tant que l'enfant n'est pas son autonomie personnelle. Il appartient aux parents, philosophiquement parlant. Puisque les parents doivent prolonger la procréation jusqu'à l'épanouissement du fruit de la procréation, qui fait que le petit enfant est un homme et doit pouvoir poser un acte d'homme. Parce que tant qu'il pose des actes qui sont au niveau animal, c'est pas un homme. Il est homme quand il pose un acte moral. Un acte où il est responsable selon les lois de la vie. Celui qui engendre, engendre un être semblable à ce qu'il est. Or, l'être semblable aux parents, si les parents sont humains, c'est-à-dire s'ils sont moralement responsables de leur acte, il faut que l'enfant puisse poser aussi un acte semblable. Vous voyez, ceci, je crois, capital à être saisi. Alors avec toutes les objections que vous pouvez entendre, et si vous avez des objections dans la tête, notez-les, puis on les discutera la fois prochaine. Parce que ça c'est très important. Il faut qu'on puisse, au point de vue philosophique, comprendre cela et répondre à toutes les objections. Puisque quand on saisit la vérité, on peut répondre à toutes les erreurs. Et il faut que là-dessus, on ait une vision nette.
Révolutionnaire pour nous. Et aujourd'hui, je comprends.
personnel. La famille doit aller plus loin. C'est un acte politique, communautaire. Je crois. L'âge de raison, c'est par rapport à l'aspect religieux, par rapport à la liturgie. Tandis que les droits des